Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le 91. Si vous nous rejoignez pour notre rendez-vous hebdomadaire ou bien le 103.1 Radio Alliance Plus, l'agglomération nimoise et au-delà, www.fmplus.org. Bon, alors on a fait une sorte de d'halte pour laisser la COP 21 se terminer. Michel, bonjour Michel.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Avant de se retrouver, puisque la semaine dernière c'était une rediffusion de l'émission précédente, et nous avons été en direct depuis Paris, où on constate quand même que la COP 21 a quelque chose à voir avec les méandres de l'amour, Eros et Agapé. Et si les agapes ne sont pas là, la convivialité y perd de son goût, et du coup, la conciliation, la réconciliation et le débat viennent à aboutir dans une impasse. Et je voudrais, comme je le fais d'habitude, si vous me permettez, qui est en relation avec le chapitre que nous allons aborder aujourd'hui, trois citations. La première de Paul Claudel dans son livre Journal. Eros maladroit qui manque le cœur et n'atteint que l'estomac. La seconde de Fischer. Le christianisme a empoisonné Eros. Il n'est pas mort, mais il en est devenu vicieux. Et enfin, toujours une sorte de critique du christianisme, cette fois-ci de Friedrich Nietzsche. Le christianisme, dit-il, a donné du poison à boire à Eros, il n'en est pas mort, mais il a dégénéré en vice. Voilà, des citations qui introduisent le chapitre d'aujourd'hui, le totalitarisme d'Eros, que vous allez nous présenter.
Voilà, alors j'aime bien la dernière citation de Nietzsche, bien qu'elle soit très très violente. Vous savez que dans la généalogie de la morale, Nietzsche nous dit que la construction chrétienne tout entière, ou judéo-chrétienne, est un édifice de mauvaise foi. Selon Nietzsche, on aime ses ennemis, on aime son prochain, par incapacité que l'on a à se défendre contre ses agressions. C'est parce qu'on te frappe sur la joue que tu tends l'autre joue. Toute action pour toi se réduit à une réaction. Alors Nietzsche défend Eros, effectivement, qui est le désir vital, ce vers quoi la vie nous emporte. Et Eros, d'après la citation que vous avez donnée, Redouane, est devenu un vice érotique, etc., dans un certain christianisme, qui, par Nietzsche, est complètement refusé. Bien entendu, la critique de Nietzsche est nécessaire à connaître, mais il faut s'en démarquer si l'on est chrétien, et il faudrait montrer que si l'on aime ses ennemis, ce n'est pas par incapacité à répondre, mais c'est par un acte de pure volonté.
Oui, en plus, on peut l'étendre, cette citation, à toutes les religions, parce que, bon, là, c'est le christianisme, c'est le milieu ambiant dans lequel vivait Nietzsche, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver. Il y a là, par exemple, on vient d'entendre que pour la première fois, en Arabie Saoudite, les femmes vote, donc parce que les femmes étaient considérées comme justement, c'est-à-dire une sorte d'attirail sexuel, et il fallait cacher le corps, les yeux, c'était des ombres qui traversent ces cités. Et effectivement, alors que l'éros n'est pas quelque chose de pervers, c'est l'expression de sentiments, et c'est ce qui fait de la vie.
Et ce sont les femmes qui incarnent précisément Eros, l'homme étant plutôt Logos, nous reviendrons sur cette opposition, Et les femmes, disait Hegel, c'est l'éternelle ironie de la communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour elles, Eros, le désir, l'amour, passe avant toutes les lois sociales, la structure sociale, vous voyez. Donc effectivement, saluons ce début en Arabie Saoudite, espérons qu'il y aura des suites. Alors, nous allons parler du totalitarisme d'Eros. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, j'entends par là que Eros est un monde du tout ou rien. Il n'admet pas ordinairement les nuances, il n'admet pas qu'au sein de lui-même puissent exister différents lieux, différents états ou différentes étapes par lesquelles on puisse passer pour atteindre Eros, comme dans cette fameuse carte du tendre qu'avaient établi les précieuses du XVIIe siècle. En fait, dans la logique d'Eros, l'amour existe dans toute la force du terme, ou bien il n'existe pas. C'est donc le fameux tout ou rien que je disais. Et cela même dans la complexité ou l'ambivalence des roses dont nous avons parlé lors de la dernière émission. Alors vous connaissez, Redouane, le jeu de la marguerite, hein, bien entendu. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, etc. Pas du tout. Hein. On effeuille la marguerite pour savoir à quel niveau se situe le sentiment que l'on éprouve. Eh bien, au regard d'Eros, ce jeu de la marguerite relève, je dirais, d'une psychologie bien tiède. Et rien de plus meurtrier, d'ailleurs, que de s'entendre dire, si l'on aime quelqu'un, une expression comme « je t'aime bien », vous voyez. On préférerait « je t'aime », bien entendu. Hein. Toute caractérisation du sentiment, ici « je t'aime bien » par l'adverbe, hein, est une diminution de son intensité. La seule formulation possible serait, comme je viens de dire, « je t'aime point, point final », comme on dit aujourd'hui, « point, point final ». Alors, comme tout se tient en matière de psychologie, et aussi bien que de théologie, voyez nos émissions des années passées, etc., je parlerai ici brièvement de stylistique ou d'esthétique. Ce qu'on appelle dans le langage la caractérisation, par opposition à la simple nomination, hein, alors on ajoute des adverbes, des qualifiants, des adjectifs, etc., des relatifs, etc., eh bien la caractérisation manifeste toujours une sorte de chute ontologique. Alors oulala, cette expression est difficile à comprendre, mais chute ontologique, c'est-à-dire la dégradation, le fait de tomber de l'être, hein, une dégradation de l'essence dans l'accident, de l'archétype dans la circonstance, ou comme le dit Heidegger dans « L'être et le temps », la chute de l'être dans l'étang. Alors, étang, ne faites pas une faute d'orthographe, c'est pas l'étang
avec un G
où plonge la grenouille, plouf, etc. Non, l'étang, c'est E, accent aigu, T-A-N-T, c'est le participe du verbe être, hein, vous voyez. Bon, alors le nom seul, prenons le mot amour par exemple, le nom renvoie à la définition de la chose, à ce qui s'atteste dans l'esprit quand on le prononce, à la plénitude de la notion. Et la caractérisation, au contraire, je t'aime un peu, beaucoup, pas du tout, etc., est une des, dont une des modalités, c'est la qualification, bien entendu, elle est en retrait. La température émotionnelle est moindre dans la caractérisation. Par exemple, l'ami est supérieur au bon ami. L'aimer est supérieur au bien-aimé ou à la bien-aimée. Il y a, dans les Illuminations de Rimbaud, un poème qui s'appelle « Veiller », je le lis. C'est le repos éclairé, ni fièvre ni langueur, sur le lit ou sur le pré. C'est l'ami, ni ardent ni faible, l'ami. C'est l'aimé, ni tourmentante ni tourmenté, l'aimé. L'air et le monde, point cherché, la vie. Était-ce donc ceci, et le rêve fraîchi. Alors vous voyez, au début du poème, on a mention d'un instant magique, qui est celui qui est vécu en premier lieu et en unité, hein, sans obligation quelconque d'analyse, de définition, de nuance, qui ne viennent que bien après, pour malheureusement le détruire, cet instant magique. L'ami, le vrai ami, doit nous procurer calme et équilibre, sans excès dans l'un ou l'autre sens, c'est-à-dire sans caractérisation. C'est pour ça que Rimbaud dit « c'est l'ami ni ardent ni faible ». Ici, il s'agit d'une caractérisation négative, hein. Et l'aimer idéal, celle que l'on aime, ne doit pas non plus être caractérisée. Dans la vie habituelle, l'inquiétude de l'amour est telle qu'on en tourmente l'autre et qu'on s'en tourmente soi-même. C'est pour ça que Rimbaud dit « c'est l'aimer ni tourmentante ni tourmentée ». En effet, quand on aime, souvent on est jaloux. Hein. J'avais dit dans une émission précédente que le jaloux est un martyr qui martyrise, c'est-à-dire quelqu'un qui souffre et qui fait souffrir par sa disposition inquisitrice. Hein. Voilà, où étais-tu, etc., que faisais-tu? Voyez Othello dans la pièce de Shakespeare, hein, qui incarne l'archétype de la jalousie. Donc, quand on est, l'idéal de l'amour, c'est que celle que l'on aime ou celui que l'on aime ne soit ni tourmentante ni tourmentée, ou ni tourmentant ni tourmenté, vous voyez. Alors là, effectivement, on a la plénitude de l'instant, comme les gnostiques l'avaient imaginé dans la notion de plérôme, et de sa plénitude nous avons tous reçu grâce pour grâce, comme le dit Jean dans son prologue, vous voyez, plérôme, ectou pléromatos, hein, sa plénitude, le plérôme. Hein. Alors là, le plérôme se suffit à soi-même, cet état s'éprouve, il ne se prouve pas, et il ne doit surtout pas être recherché. Kafka dit très bien, celui qui cherche ne trouve pas, celui qui ne cherche pas est trouvé. Et c'est le sens de la formule de Rimbaud, l'air et le monde, point chercher la vie. Malheureusement, cet état ne dure pas. Parce que très vite surgit l'interrogation, l'analyse intellectuelle de ce moment. Était-ce dans ceci, dit Rimbaud. Et aussitôt il ajoute, et le rêve fraîchit. Parce que quand on interroge le moment, alors il s'évapore, il meurt. C'est comme quand le vent se lève et nous arrache au rêve, au cadeau de l'instant, à ce que j'appellerais le présent du présent. Hein. Et le rêve fraîchit, envolé, autant en emporte le vent. Gone with the wind, hein, voilà. Alors, analyse signifie, à partir de son étymologie grecque, analusis, dissolution. Alors, on voit bien ici le problème, hein. Il y a une opposition fondamentale entre Eros que l'on vit en plénitude, dans sa totalité, et le désir de le connaître, de savoir exactement ce qu'il est, s'il est fondé, etc. Ce désir le détruit. Alors, je ne sais pas, Redouane, si vous connaissez l'histoire de Psyché, sûrement que si, quand même, la leçon du mythe de Psyché, tel qu'Apulée le raconte en ses Métamorphoses, Métamorphoses ou l'âne d'or, hein. C'est un mythe qui a été repris par La Fontaine dans Les Amours de Psyché et de Cupidon. Alors, je vous expose brièvement de quoi il s'agit. Psyché est mariée à Eros, c'est-à-dire Cupidon en latin, à condition, sous condition expresse, de ne jamais chercher à le voir. Alors, elle est heureuse pendant un certain temps. Malheureusement, à l'instigation de ses sœurs, qui jettent le doute dans son esprit sur la beauté réelle de son mari, ses sœurs lui disent à Psyché, Psyché, si Cupidon ne veut pas être vu, c'est qu'il est peut-être très laid, hein, donc tu as intérêt de regarder ce qu'il a né. Alors, à l'instigation de ses sœurs, craignant qu'il ne fût laid, Psyché chercha à voir Cupidon. Et de nuit, à la lumière d'une lampe, alors elle le vit dans toute sa beauté. Mais il s'éveilla à cause d'un peu d'huile tombant sur sa cuisse depuis la lampe que Psyché tenait d'une main tremblante à cause de son excitation. Alors aussitôt, qu'est-ce qu'a fait Cupidon ? Il a dit à Psyché, Psyché, bon, tu as voulu me voir, tu m'as vu, tu as vu que j'étais beau, hein, mais maintenant va-t'en, je te répudie, tu n'es plus ma femme, puisque tu as rompu la condition initiale, le pacte que nous avions fait. Alors, quel est le sens de cela ? Le sens, c'est qu'il est impossible de connaître son bonheur. Il est seulement possible de le vivre. Vouloir le connaître, le voir, yeux grands ouverts, en quelque sorte, c'est le détruire. Quand on est heureux, il ne faudrait pas être curieux sur la justification de ce bonheur. Hein. Eros se vit, mais il ne se voit pas, il ne s'analyse pas. C'est pour ça qu'il y a ce fameux totalitarisme dont je parlais. Alors, psyché, en grec, signifie l'âme, hein, psyché, psyché, d'où psychologie, etc. Et effectivement, ayant été bannie par Cupidon, elle connaît des vicissitudes, des malheurs, mais à la fin, quand même, elle est récupérée par Cupidon. Cupidon la reprend, hein, après bien des malheurs qu'elle a subis. Et les chrétiens ont vu là-dedans une allégorie de l'âme qui s'est séparée de son Dieu, hein, et qui après est pardonnée finalement, après ses épreuves sur cette vie, est pardonnée par Dieu qui la réintègre dans son giron. Alors, je crois, Redon, qu'on pourrait penser aussi à la faute d'Adam et Ève. Je crois que c'est ça. Hein. Je vous vois acquiescer. Donc, ils étaient heureux. Hein, quel besoin ont-ils eu de vouloir connaître quelque chose, la connaissance du bien et du mal, c'est ça la faute, hein. Attention, la pomme c'est pas du tout la pomme d'ailleurs, c'est malum le mal et non pas malum avec un allons la pomme, hein. Donc c'est pas une pomme, c'est pas la sexualité non plus, la première faute, je pense que vous en serez d'accord, Redouane, c'est la connaissance, hein. Ils ont voulu connaître le bien et le mal, bien sûr, mais l'idée de connaissance. Alors vous voyez, dans la vie, tantôt on vit, tantôt on connaît, et très souvent, connaître, c'est détruire la vie. Je crois que l'Ecclésiaste le dit aussi, celui qui augmente sa connaissance, augmente aussi sa douleur, hein. Dans la Vulgate, c'est « qui auget scientiam auget et dolorem ». Donc, Coëlette ou l'Ecclésiaste montre bien qu'il y a incompatibilité entre vivre et vouloir connaître. Est-ce que vous êtes d'accord, Edouard ? Quand on est heureux, quel besoin a-t-on de chercher le pourquoi, hein ? On vit l'instant, non ?
D'ailleurs, quand on va chercher la petite bête, effectivement, on trouve toujours la petite bête.
Oui, oui, alors en plus, oui, effectivement, quand on se tourmente comme ça, hein, on risque de trouver ce qu'il ne faudrait pas. La curiosité est toujours punie. Vous voyez Pandore, par exemple, qui a ouvert le coffret, la boîte de tous les biens de l'humanité, puis ils ont tous envolé, sauf l'espérance qui est restée au fond, hein. Pandore, il y a eu le temps de refermer le couvercle, espérance, vous voyez, Pandore, tous les cadeaux, voilà, en grec, hein. Donc, il y a un danger dans la connaissance de ce que l'on vit. Et je dirais alors qu'en matière d'amour, ce qui peut être évalué n'a aucune valeur. Et quand la comparaison entre par la porte, comme on dit familièrement, on peut dire que l'amour s'en va par la fenêtre. Hein. Parce que celui qui aime est pris par une force qui le porte et qui le possède au-delà de lui-même. La Phèdre de Racine nous dit « Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. » En ce sens, Eros dépasse toute psychologie, toute dissection minutieuse. Pour reprendre le mot de Victor Hugo dans Hernani, Eros c'est une force qui va, hein. Je pense par exemple à Catherine et Heathcliff sur la lande, dans le roman d'Émilie Brontë, Les Hauts du Hurlevent, hein. Ils sont entourés par les éléments déchaînés et ils sont emportés par un grand vent. Alors évidemment, cela est très injuste, car on pourrait très bien concevoir un apprentissage progressif de l'amour, passant par différentes étapes. On commence par aimer un peu, puis un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus, hein, voyez ? Bon, on pourrait le concevoir. Vous qui avez beaucoup voyagé, Redouane, vous savez que dans beaucoup de cultures, on fait des mariages arrangés ou des mariages de raison. En Inde, par exemple, j'ai entendu dire que on pense que l'amour viendra avec le temps. Hein, vous aussi, vous avez fait.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Oui.
L'amour viendra. On pourrait le concevoir.
Même le mariage d'amour dans la société occidentale est quelque chose d'une notion très tardive.
Absolument. Absolument, vous avez raison. Ça date sûrement de l'époque romantique, hein, le mariage d'amour, le love marriage. Hein. Donc, on pourrait le concevoir. Hein, et cette carte du tendre, par exemple, petits soins, bienveillance, etc., l'océan, le fleuve, etc., eh bien, elle peut nous apprendre beaucoup de choses sur les différents stades que peut connaître l'amour. L'amour conçu non pas comme un donné immédiat et total, comme je viens de l'analyser, mais comme un processus évolutif. Et aussi la connaissance, le discernement, quand l'amour est véritable, sont nécessaires. On le verra dans une émission future. Mais la logique d'Eros n'est pas là. La logique d'Eros, c'est tout ou rien. Hein. L'amour nous illumine définitivement, comme on va l'entendre dans la fameuse chanson d'Édith Piaf, « Hymne à l'amour ».
S'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Je m'abandonne si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes mains, mon corps frémira sous tes mains. Je m'abandonne les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. La vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. M'abandonne si tu m'aimes, parle-moi de bleu.